Bonjour chers amis, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier Daf Kouf Nun Tet, la page 159 du traité Baba Batra. Nous nous trouvons à la fin de la page 158, quatre lignes avant la fin, troisième mot de la ligne. Dit la Gemara, Shalhou Mitam, on a envoyé de là-bas, de la terre d'Eretz Israël, on a envoyé un enseignement qui dit comme ça. Ben Shelava Benirse Aviv Bechai. Alors, je vais lire l'enseignement, on va le traduire. Mais la Gemara, elle ne va pas comprendre cet enseignement. Elle va essayer de dire que sûrement c'est un enseignement qui était erroné. Et donc, c'est l'enseignement qui a été dit, c'était autre chose. Et on va essayer de trouver qu'est-ce qui avait été dit. Donc, dit la Gemara, Ben Shelava Benirse Aviv Behaye Aviv Vamet. Un fils qui a emprunté sur le compte des biens de son père, c'est-à-dire quelqu'un, son père il est vivant, et il emprunte de l'argent. Et il dit au prêteur, tu sais quoi, je peux hypothéquer les biens que j'hériterai de mon père, comme ça il a dit. Bechaya vive du vivant du père, va mettre. Et après au final, le père est décédé, comme ça on comprend maintenant, mais après on changera. Bno motim yad alekuchot. Alors son fils, il peut prendre de la main des acheteurs. Si le père il a vendu les biens de son vivant, alors le fils, il pourra récupérer ses biens, ou même si le fils, il a vendu les biens quand, après le décès du père, puisque l'emprunt, il a été fait au moment du, sur ces terrains-là, en se basant sur ces terrains-là. Et donc, c'est si les gens qui ont acheté les terrains, le fils, après, il peut récupérer le terrain. Et là, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. D'abord, on finit l'enseignement. Vezohi shekache bedine mamonot. Ça, c'est un enseignement qui est difficile dans les lois d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Demande à Gemara. Qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? Pourquoi l'emprunteur, qu'est-ce qu'il a le droit de prendre l'argent des acheteurs, de prendre les terrains que les acheteurs ont pris? Et quel acheteur on est en train de parler? C'est quoi cette histoire-là? Demande à Gemara. Gemara, si un tel enseignement a été dit, voilà comment il a été dit. Ben Shemachar, Ben Irse Aviv, Behaye Aviv, s'il y a un fils qui a vendu les biens de son père, du vivant de son père. Ça veut dire, du vivant du père, il ne peut pas vendre les biens, c'est au père. Mais lui, il a vendu la part, il savait, par exemple, c'était un fils unique, c'est lui qui allait hériter les biens. Il a dit il a dit à des gens, voilà, je vous vends les biens, il ne peut pas le vendre maintenant, ça sera que quand le père va décéder. Il peut vendre maintenant pour après le décès du père, alors quand le fils, il va hériter les biens. Eh bien, ces biens, ils vont être vendus déjà à tel ou tel acheteur. Donc, il y a des gens qui vont acheter pour quand le père va décéder et que le fils va hériter. Eh bien, ça sera les terrains iront pour eux. Donc, voilà qu'un fils, il a vendu, on reprend. Donc, il a vendu des terrains du père, du vivant du père, dans l'intention que si le père va décéder, donc les terrains n'iront pas chez le fils, mais ils iront chez les acheteurs. Qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est que le fils, il est décédé avant le père. Et le fils, il avait lui-même un fils, donc le petit-fils maintenant, le fils, celui qui a vendu le terrain, il avait un fils, un petit-fils, et le petit-fils du grand-père. Donc maintenant, lorsque le père va décéder, reprenons bien, le fils, il a vendu le terrain de son père. On peut dire comme ça, ou alors le fils, il a vendu le terrain du. Le père, il a vendu le terrain du grand-père. On va utiliser le terme de la Guémara, donc le fils, il a vendu le terrain de son père. Et pour après, quand il a vendu le terrain de son père, que quand il y aura l'héritage, quand le père va décéder, alors les terrains ils seront vendus. Mais entre-temps, avant qu'il y ait eu l'héritage, avant que le père décède, le fils il est décédé. Maintenant, il y a le petit-fils. Le petit-fils, lui, il peut arriver et réclamer les terrains, prendre les terrains à la place du père. À la place du père, et il peut prendre les terrains, ce ne seront pas les acheteurs. Quand une fois que le grand-père va décéder, on va pas dire que ce sont les acheteurs qui vont prendre les terrains, mais ça va être le petit-fils qui va prendre le terrain. Va mettre, voilà que donc le père il est décédé, et comme on l'a dit aussi, le fils il était décédé déjà. Bno, le fils du vendeur, Motim Yadalekuchot, il pourra reprendre de la main des acheteurs. Bezohi Shekasha Bedine Mamonot, et ça c'est une loi qui est difficile à comprendre dans les lois d'argent. Demande à Gmar, comment ça se fait que le petit-fils peut reprendre les biens du grand-père? Du grand-père. A priori, nous comment on peut comprendre? Alors, demande la Gemara, velim roulé, les acheteurs ont qu'à dire au petit-fils, avour mazvin vat mafik, ton père il a vendu des biens et toi tu les reprends. Si quelqu'un, un cas standard, quelqu'un qui vend des terrains, et après il est décédé, Le fils du défunt ne peut pas récupérer les terrains qui ont été vendus. C'est ce qui s'est passé. Le père, toi le petit-fils, d'où tu as l'héritage? Tu as l'héritage parce que tu as hérité ton père, et ton père, il a hérité le grand-père. Maintenant, le père, il avait déjà vendu les terrains, donc comment tu peux prendre l'héritage? Répond la Gemara, non. Le petit-fils, il hérite directement du grand-père. C'est-à-dire, le petit-fils, dans un tel cas, quand le père, il est décédé avant le grand-père, et que maintenant le grand-père décède, il y a deux raisons pourquoi le petit-fils, il pourrait hériter. Soit d'abord parce que son père, il hérite le grand-père, et maintenant le petit-fils hérite le père. Soit parce que le petit-fils, il hérite directement le grand-père. Donc là, nous dit la Gemara, c'est ce que dit la Gemara. Umay Kusha, quelle est la question? Demande la Gemara. C'est pas un problème, ça. C'est pas une, on a dit, il faut dire que les acheteurs, ils vont dire au petit-fils, toi, dois hériter de ton père, et ton père, il avait déjà vendu le terrain. Non? Dilma Matse Amar, peut-être que le petit-fils peut prétendre et dire. Moi, je viens par la force du père de mon père. C'est-à-dire, j'arrive, j'hérite directement mon grand-père. Parce que quelqu'un, tous ses descendants l'héritent. Donc le petit-fils, il dit, moi, j'hérite mon grand-père. Pas parce que j'hérite mon père et mon père hérite mon grand-père. Non, parce que j'hérite directement mon grand-père. C'est aussi une raison d'hériter. Teda dirtiv, et sache, parce qu'il y a écrit dans le verset, le verset, il dit, à la place de tes parents, viendront tes enfants. Ça veut dire que le verset il dit qu'il y aura une suite. Teshitemo, les starim becholaaretz, et tu placeras donc tes enfants comme des princes, des nobles dans toute la terre. En tout cas, donc on voit qu'à la place, il y a écrit dans le verset, à la place de tes parents, viendront après tes parents, donc viendront tes enfants. C'est-à-dire que on parle que les petits-enfants, ils seront directement à la place des grands-parents. Ils peuvent être, entre guillemets, aussi des héritiers directs des grands-parents. Et dans ce cas-là, donc le petit-fils, il peut dire aux acheteurs, mon père qui vous a vendu les terrains, il n'a pas eu un moment où il a hérité le terrain, puisqu'il était décédé, et moi j'hérite directement de mon grand-père. Donc donnez-moi les terrains. Donc, dit la Gemara, c'est une loi qui est tout à fait normale. Alors pourquoi on a dit que c'était une loi qui était incompréhensible, que c'était une loi très dure? La Gemara, elle est Ikashia Hakasha. Si on veut dire une loi où il y a eu une question, voici la question qu'on va trouver dedans, c'est-à-dire voici la loi qui a été dite, et sur laquelle il y avait une question, une incompréhension. C'est quoi? Donc, faudra dire autrement. Ben Bechor Shemacha Chelek Be Bechora Behaye Aviv. S'il y a un fils premier-né qui a vendu la double part, un fils premier-né, il a une double part dans l'héritage. Il a vendu la deuxième part de l'héritage qu'il doit recevoir, ce qu'il a le droit en tant que premier-né, il l'a vendu du vivant du père. Donc, il n'avait rien encore hérité. Il a trouvé des acheteurs, il leur a dit, voilà, une fois que j'hériterai de mon père, une double part, la deuxième part, vous la prendrez-vous. Vamet Behaye Aviv. Et ce fils-là qui a vendu les terrains, il est décédé du vivant du père, de son père. Et cet homme-là qui est décédé, qui a vendu les terrains, qui a vendu la double part et qui est décédé, il avait un fils lui-même. Donc ce petit-fils-là, une fois que le grand-père maintenant va décéder, et que, alors normalement, qu'est-ce qui doit se passer? C'est que le grand-père, lui, il décède. S'il a plusieurs enfants, il se partage tous les terrains. Et s'il y a un enfant qui est déjà décédé, mais que lui-même, cet enfant qui est décédé, il avait un fils, donc ça va être son fils, le petit-fils, qui prendra la part que le père il aurait dû recevoir, et il prendra une double part. Maintenant, on nous dit la Gemara, donc on continue. Le petit-fils, il pourra dire aux acheteurs, c'est moi qui hérite la double part. Et vous ne prenez pas la double part que mon père il vous avait vendue. Et ça, avec Zohi chez Kacha Bedine Mamonot. Ça, c'est vraiment quelque chose que c'est une question dans les lois d'argent. Pourquoi? Avoua Masvin Iou Mafik. Comment on peut comprendre? Le père de ce petit-fils, il a vendu les terrains, la double part qu'il allait recevoir. Et le petit-fils, il décide, le fils de ce père, quoi, le petit-fils, il décide de reprendre les terrains. C'est pas possible. Veritema Hachanami Amar Mikwar Avoua de Abakaatina. Maintenant, peut-être que tu vas me répondre comme on a répondu juste avant, que le petit-fils peut prétendre qu'il hérite directement le grand-père. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce petit-fils-là, il n'a pas. S'il hérite directement du grand-père, il n'y a pas de raison qu'il reçoive une double part. Il doit recevoir une seule part. La raison pourquoi il reçoit une double part, le petit-fils, c'est parce qu'il dit, voilà, mon père, il a hérité. Mon père, il était premier-né de tous ses frères et il a hérité une double part. Et moi, je prends l'héritage du père. Donc là, pourquoi on voit qu'il reçoit une double part? Parce que c'est le. Parce que c'est le, parce qu'il hérite par son père. Ça se passe pas un héritage directement du grand-père, mais par le père. Donc c'est ce que dit Imikor Avuade Abaka. Si vraiment il veut hériter par la force du père de son père, c'est-à-dire que si on veut dire ici que le petit-fils il hérite directement du grand-père, il ne recevra pas une double part. Pourquoi il reçoit une double part? Donc, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Ça peut être une telle loi qui a été dite. Et l'étonnement qui a existé, c'est comment ça se fait que le petit-fils, il peut empêcher les acheteurs de prendre la double part qui avait été vendue par le père. Pourquoi? Parce que normalement, on a dit le père il a vendu, le petit-fils et le fils de ce père-là, il prend les terrains, c'est pas compréhensible. Diagmaromai Kushia, quel est le problème? Dilma matse amar mikwachavua de abba kaatina, ou bim comme av kaamina, kaimna. Peut-être qu'il peut le dire comme ça. Peut-être toujours on va dire que le petit-fils, il hérite directement du père. Mais non, du grand-père, excusez-moi. Il hérite directement du grand-père. Maintenant, on a dit s'il hérite directement du grand-père, pourquoi il recevrait une double part? Comment ça marche que le petit-fils, il hérite le grand-père? C'est que le petit-fils, il prend la place du père. Comme le père, il devait recevoir une double part du grand-père, de son propre père, quoi, du grand-père. Donc là, le petit-fils, c'est comme s'il est le père. Et il prend une double part. Mais c'est pas que c'est le père qui a hérité du grand-père et que le père, il fait hériter à son fils, au petit-fils du grand-père. Non! C'est que directement, le petit-fils, il hérite du grand-père et que la Torah lui a donné le statut comme le statut du père. Peut-être c'est ça. Donc on n'a pas de question tellement, c'est pas une question. On comprend que le petit-fils peut empêcher les acheteurs, leur dire, voilà, vous avez acheté la double part de mon père, finalement c'est pas mon père qui a hérité, c'est moi qui hérite directement du grand-père. Et là, seulement s'il y a une question à te poser, si voilà la question, c'est-à-dire, si on a un cas sur lequel on va trouver une question, voilà le cas qui a été enseigné, sur lequel il y avait la question. On va dire autre chose, une autre loi qui aurait été enseignée. Si quelqu'un connaissait un témoignage à l'écrit, ça veut dire quelqu'un qui avait signé un témoignage. Par exemple, quelqu'un, Réhouven, il a signé sur une reconnaissance de dette comme quoi Shimon a prêté de l'argent à Lévi. Donc Réhouven, il a témoigné en faveur de quelqu'un à l'écrit. Réhouven, c'était un homme qui était connu pour être très bien, d'accord. Au moment où il avait signé, c'était très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu un voleur. Un voleur, il peut pas, on ne croit plus tous les témoignages qu'il dit. On dit peut-être qu'il ment. On ne peut plus le croire jusqu'à qu'on soit sûr qu'il a fait tchouva. Mais autrement, on ne peut plus le croire. Donc, c'est ce qu'on appelle, il est pas soul laïdout, il est invalide à témoigner. S'il a signé sur une reconnaissance de dette, on ne peut pas croire que c'est une bonne reconnaissance de dette. Maintenant, la reconnaissance de dette, par exemple, elle avait été faite le 1er janvier. Et le témoin qui a signé, on sait qu'il a volé le 15 janvier. Donc, on ne dit pas que tout ce qu'il a signé depuis le début de sa vie, ça vaut rien. On dit à partir du 15 janvier, là on sait qu'il a volé, ça y est, il ne peut plus, on ne croit plus ce qu'il est en train de nous dire. Donc, a priori, cette reconnaissance de dette, tout va bien. Alors, pour authentifier une signature, il y a deux possibilités. Soit c'est la personne elle-même qui a signé qui dit c'est ma signature, soit ce sont d'autres personnes qui disent on connaît, c'est sa signature. Nous dit la Guimara, dans un tel cas, que la reconnaissance de dette, elle date du 1er janvier et que un des témoins, il a signé, il a été attrapé en tant que voleur, qu'on sait qu'il a volé le 15 janvier. Dans un tel cas, le témoin lui-même, il ne peut pas témoigner que c'est sa signature parce que maintenant, on va plus le croire. S'il nous dit c'est ma signature, en réalité, je peux dire peut-être c'est pas vrai, c'est la signature de quelqu'un d'autre et il nous dit que c'est sa signature. En plus de ça, peut-être que il y a deux problèmes. Donc ça, un premier problème, peut-être c'est pas sa signature. Et même si c'est sa signature, peut-être qu'il a signé aujourd'hui et qu'il a écrit une reconnaissance de dette aujourd'hui en écrivant que c'était le 1er janvier. Donc je ne peux plus le croire s'il m'affirme que c'est sa signature. Mais s'il y a d'autres personnes qui me disent, on connaît, c'est la signature de un tel, de telle personne, ça marche. Ça, c'est l'enseignement qui va être dit. Et sur cela, Guimara qui s'étonne et qui dit, mais que ça change. Même s'il y a d'autres personnes qui témoignent et qui disent, on sait que c'est la signature du témoin, mais peut-être que ce témoin, comme on a dit, il y a encore toujours le risque que. Alors voilà, c'est sa signature, mais peut-être qu'il y a toujours le risque que ce témoin, ils ont décidé d'écrire une reconnaissance de dette le 20 janvier, une fausse reconnaissance de dette, et ils ont écrit dessus. Ils ont dit, attends, mais on sait que t'es un voleur, alors ils ont écrit dessus que ils ont dit que la reconnaissance de dette était depuis le 1er janvier. Ou comment ça se fait qu'il y a d'autres témoins qui peuvent témoigner sur la signature du voleur et ça nous suffit? C'est ce que dit Agmara. Donc regardons dans les mots. Si quelqu'un connaissait un témoignage sur son ami avant d'être un voleur, ça veut dire comme on a dit qu'il avait signé en faveur de quelqu'un d'autre sur une reconnaissance de dette par exemple, avant d'avoir été un voleur. Gazlan, il est devenu un voleur. Et donc maintenant on ne le croit plus de ce qu'il nous raconte. Hu enome idal ktav yado. Lui, il ne peut pas témoigner sur sa signature et authentifier sa signature, il ne peut plus, on ne peut pas le croire. Et même si on le croit que c'est sa signature, peut-être qu'il a écrit maintenant une reconnaissance de dette aujourd'hui en écrivant que qu'il ne vaut rien et en écrivant que ça s'est passé il y a le 1er janvier, comme dans notre exemple. Avalarimeidin. Mais d'autres personnes peuvent témoigner en faveur de ce voleur, de dire que c'est sa signature en question. Et c'est a priori, on n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il nous reste toujours le problème. Comme on a dit que peut-être que la signature, même si la signature elle est vraie, mais ça ne nous change rien. Et parce qu'on a toujours une crainte de penser que peut-être la signature, elle a été faite aujourd'hui avec une fausse reconnaissance de dette. Ils ont falsifié une reconnaissance de dette. Hashta ihu lo meheman, ahariné nous dit Aïmara, c'est déjà lui maintenant, on ne le croit pas. Comment ça se fait que d'autres personnes, sur sa propre signature, on va les croire? Il y a toujours le risque qui existe. Et donc c'est ça, ce qu'il y a un problème, qu'il y a une question sur les lois d'argent. Diagmara Maikushia, quelle est la question? Dilma, Kegon, Sheurzak, Taviado, Bebeddin. On peut dire, dit l'Agmara, peut-être qu'on est en train de parler ici, que cette reconnaissance de dette, déjà avant que cet homme-là il a été fait attraper en tant que voleur, elle avait été authentifiée au tribunal. Et on avait écrit une preuve qui avait été authentifiée au tribunal, on avait écrit aussi une preuve. Maintenant, il faut authentifier cette authentification. Donc, s'il y a des témoins qui arrivent, effectivement, il n'y a aucun témoin qui peut venir, aucune personne qui peut arriver et qui dire, on sait que ce voleur-là, c'est sa signature. Ça ne nous change rien. Mais eux, ils vont dire, ils peuvent dire, on sait que l'authentification qui a été faite sur la signature de cet homme-là, du voleur, qu'il avait signé avant de voler, on sait que c'est une bonne authentification. Ça pourra marcher. Point. Et là, il cachait à Hakachia seulement des Aymara si tu peux. Donc effectivement, donc il n'y a pas de question sur cet enseignement, ça marche. Donc Aymara, si tu veux trouver un enseignement sur lequel on avait dit qu'il y avait une question, voici celui lequel il y aura une question. Voilà l'enseignement. Hayayodéalobeidoutbishtarachelotipollobeirusha. Si quelqu'un connaissait un témoignage en faveur de quelqu'un d'autre à l'écrit, avant que ça lui arrive en tant qu'héritage. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a témoigné. Par exemple, quelqu'un peut témoigner en faveur du père de son grand-père, du frère de son grand-père. Quelqu'un qui a témoigné en faveur du frère, il a fait une signature sur une reconnaissance de dette qu'un tel doit de l'argent au frère du grand-père. Et il a signé. Après, le frère du grand-père, il est décédé. Il n'avait aucun héritier, si ce n'est lui, si ce n'est le fils de son frère, le petit-fils de son frère. Et donc, son petit-neveu. Il a témoigné en sa faveur. Très bien. Il a témoigné maintenant en sa faveur. Alors, et ce qui se passe, c'est le petit-neveu, il a hérité son grand-oncle. On est en train de parler de ça. Il a hérité son grand-oncle et il reçoit parmi l'héritage aussi une reconnaissance de dette. Que ceux qui devaient de l'argent au grand-oncle, ils doivent l'argent maintenant au petit-neveu. C'est qui a été signé dans cette reconnaissance de dette? C'est lui-même. Lui, il signe. C'est sur lui-même. Donc, nous dit Aymara, t'es dans un tel cas. Aussi, il revient que si on veut authentifier cette signature, on ne pourra pas utiliser son authentification, son témoignage à lui, parce qu'il témoigne sur lui-même, mais on pourrait utiliser le témoignage d'autres personnes. Ou Enoyachol, lui, il ne peut pas authentifier sa signature. Par contre, Achirim, d'autres, Aval Achirim et d'autres personnes, ils peuvent authentifier sa signature à lui. Et donc, sur ce aussi, on a la même question. Comme nous dit le Bach, même le Bach, il rajoute des mots, il dit, Hashta ihu lomeheman achariné. C'est déjà maintenant. Lui, il n'est pas cru, pourquoi d'autres personnes seront crues sur sa signature? Encore une fois, on n'a qu'à dire que même si on sait que c'est sa signature, mais peut-être qu'il l'a, peut-être si, c'est sa signature, mais peut-être qu'il a écrit aujourd'hui une reconnaissance de dette, il dit voilà, j'ai reçu cette reconnaissance de dette de mon grand-oncle, et ce n'est pas vrai. Diagmara, quel est le problème? Diagmara, Dima, Khanami, peut-être aussi on peut répondre comme on a répondu juste avant, que ce que d'autres personnes ils viennent témoigner que c'est sa signature, c'est pas juste simplement ils viennent pas témoigner que c'est sa signature. On parle que cette reconnaissance de dette, elle avait été authentifiée auparavant par un tribunal, avant le décès du grand-oncle, avant l'héritage. Et donc il y avait eu des signatures dessus. Il faut authentifier les signatures d'authentification. Et sur ça, on nous dit que d'autres personnes peuvent authentifier. Donc à Hanami, peut-être aussi, on parle de Kikan Shurzak Taviado Bebedin, que la reconnaissance de dette à l'écrit, elle a été préposée devant le tribunal. Donc, Diagmara, elle a I Kashia. Et donc, comme on a dit, il faut authentifier l'authentification et donc d'autres personnes peuvent le faire. Donc si tu trouves un cas où il y a une question, voilà le cas où il y a la question. Si quelqu'un connaissait un témoignage avant qu'il devienne son gendre, donc le gendre, quelqu'un, il connaissait le témoignage, il avait écrit une reconnaissance de dette, il y avait une reconnaissance de dette. Par exemple, Réhouven, il a témoigné que Shimon, il doit de l'argent, ou il a prêté de l'argent. Très bien. Après, Réhouven, il s'est marié avec la fille de Shimon. Donc maintenant, Réhouven, ça devient le gendre de Shimon. Il ne peut plus témoigner en sa faveur. Benazé Khatano, et Réhouven est devenu le gendre de Shimon, de celui pour lequel on est en train de témoigner. Ou est nommé Idal. Donc lui, le gendre, lui, il ne peut pas témoigner, c'est ça ma signature. Mais d'autres personnes peuvent témoigner que c'est la signature du gendre. Et là aussi, on peut se poser comme question. Lui, il n'est pas cru, le gendre n'est pas cru sur sa signature, que c'est sa propre signature. D'autres personnes vont être crues, même si c'est sa signature, mais il y a toujours une crainte de penser que peut-être qu'ils ont écrit aujourd'hui la reconnaissance de dette. Et ils prétendent que c'était une reconnaissance de dette qui existait avant le mariage de Réhouven avec la fille de Shimon. Mais Bebedin, et peut-être tu vas me répondre comme avant. Que aussi, on va répondre qu'on parle que la reconnaissance de dette, on avait déjà authentifié avant le mariage de Réhouven avec la fille de Shimon. Avant que Réhouven devienne le gendre de Shimon, on avait authentifié la reconnaissance de dette. Vehaamar Rav Yosef, et donc, comme on a dit, on peut authentifier l'authentification, comme on l'avait répondu avant, non? Vehaamar Rav Yosef Bar Minyumi, Amar Rav Nachman. Pourtant, Rav Yosef Bar Minyumi, il a rapporté au nom de Rav Nachman, Avalpi Shelo Urzak Taviado Bebedin, que bien que la reconnaissance de dette n'avait pas été authentifiée déjà une première fois au tribunal, quand même, maintenant, d'autres personnes peuvent venir et dire c'est sa signature, et on authentifie. Pourquoi? Parce que, comme on va voir après dans la suite de la Guimara, parce que, en vérité, quelqu'un qui devient le gendre de son de gendre, on ne craint pas que ce qu'il est en train de... La raison pour laquelle on dit qu'il ne peut pas témoigner un gendre sur ses beaux-parents, c'est pas parce qu'on craint qu'il va mentir. Parce que la Torah, elle a dit que des proches ne peuvent pas se témoigner l'un en faveur de l'autre. Pas parce qu'on craint qu'il va mentir. Et donc le gendre, il ne peut pas témoigner sur ce grand-père, parce qu'on ne craint pas qu'il va mentir, mais il ne peut pas témoigner sur quelque chose en faveur du beau-père. Par contre, quelqu'un d'autre peut témoigner que le gendre, effectivement, c'est la bonne signature, et que c'était une signature qui avait été faite avant, et on ne craint pas qu'il y ait eu une falsification. Diagmara, donc voilà. Alors, quel est le problème, Diagmara? Omai Kusha, quelle est la question? Dilma, Xerat Melechi, de Ihudo Meheman, Baharine Mehemne, Vela Mishum de Meshaker. Peut-être que la raison, c'est une Xerat Akadouf, ce qu'on appelle ça, un décret du verset, un décret du roi Hachem. Que quoi? Que seul lui, il n'est pas cru, mais d'autres personnes sont crues. Voilà, la Torah, elle veut pas que quelqu'un, un gendre, il témoigne pour ou contre ses beaux-parents. Mais pas parce qu'on croit qu'il va mentir. C'est pas qu'on craint qu'il va mentir. Si on se dit, non, il n'y a pas. Pourquoi? Et c'est pas parce qu'on craint qu'il va mentir, d'Eilote Mahari, car si tu dis pas ainsi, Moshe et Aaron, les Chotnam, Mishum de Lomehemnehu. Si Moshe et Aaron, les deux, ils veulent témoigner à leur beau-père, ils pourront témoigner en faveur de leur beau-père? Non. Quoi? Parce qu'on craint qu'ils vont mentir. Genre, Moshe Rabbeinu, on craint qu'il va mentir, ou Aaron, à Cohen, on craint qu'il va mentir. Non. La Torah, elle n'a pas dit comme ça. Elle a dit que on ne peut pas témoigner en faveur des proches. Point. Et la Xerat Melechush, et le Yéridou, Lahem. Donc, c'est sûr qu'on va dire à propos de Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, on va jamais passer par l'esprit qu'on craint que ce sont des menteurs, Chas Shalom. Mais on va dire que la Torah, non. Elle a dit qu'on ne peut pas témoigner sur des proches. Achanami, donc ici aussi, Xerat Melechush, et le Yéridou, Taviado, Lechotno, qu'on ne peut pas témoigner en faveur de sa propre signature pour aider le beau-père. Mais c'est pas que. Donc, on n'a pas de question. Seulement tu as raison, alors on revient à la première interprétation qu'on a voulu faire, pas interprétation mais explication ou alors version qu'on a voulu donner, à savoir que la première version qu'on a donnée, c'est-à-dire pas la première chose qui a été dite, mais la première tout en haut de notre page, on a dit que si le fils, on a dit peut-être que le fils il a vendu les terrains de son père, du vivant du père. Il a dit, voilà, aux acheteurs, quand le père va décéder, alors au lieu que ça soit moi qui hérite les terrains, c'est vous qui les prendrez. Et le fils, il est décédé avant le père. Donc maintenant, le père, et quand le père, il va décéder, le petit-fils, il peut empêcher les acheteurs de prendre les terrains et dire aux acheteurs, c'est moi qui prends, Ça veut dire il y a deux possibilités. Pourquoi le petit-fils il hérite? Si on dit que le petit-fils il peut hériter d'une façon en disant d'abord le fils il a hérité du grand-père, le grand-père il a fait hériter à son fils et qui était le père du petit-fils et le fils il a fait hériter au petit-fils. Donc le grand-père il a fait hériter à son fils et le fils il avait hérité au petit-fils. Dans ce cas-là le petit-fils ce que son père il a vendu, il peut pas récupérer des acheteurs. Mais on peut dire autre chose, c'est que le petit-fils il hérite directement du grand-père. Et dans ce cas-là, on comprend que le fils, il empêche les acheteurs de récupérer les terrains. Et il leur dit, voilà, mon père, c'est qui vous a vendu? Mon père, lui, il n'a jamais hérité. C'est moi qui hérite du grand-père directement. Ah, cette chose-là qu'on a dit que le petit-fils, il peut hériter du grand-père directement, nous dit Agmara, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'on a, parce qu'on n'a pas de preuve du verset. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est un enseignement qui est une question. Parce qu'on n'a pas de preuve. Mais c'est comme ça qu'on nous dit le Rashbam qu'on tranche. Mais on n'a pas de preuve, c'est plus par la réflexion qu'on a dit ça, mais pas par une preuve du verset. Donc, Vedekakashi Alecha, quand tu avais une question, Tahat Avotecha Yobanecha, quand tu as dit, mais c'est évident que le petit-fils, il hérite du grand-père directement, comme le verset dit, à la place de ton père, il y aura de tes parents, il y aura tes enfants, viendront tes enfants. Haoubrachaktiv, là-bas, c'est une bénédiction pour dire qu'il y aura une continuité et qu'il y aura toujours des descendants. Mais c'est pas pour dire que c'est une loi comme ça que le petit-fils il prend la place du grand-père, il hérite directement du grand-père. Teima, oui. Omi matzit amarta bebracha ktiv. Est-ce que tu peux dire que ce verset il vient dire juste une bénédiction et pas une loi? Avalinyan dinalo. Mais à propos des lois, ça n'a pas cette, ça n'a pas le petit-fils il hérite pas directement du grand-père et donc c'est pour ça qu'on a dit que ce sera une question qu'on avait une question sur l'enseignement. Non. Il y a écrit Ve'atanya, mais sur le côté écrit qui veut dire Ve'atnan, c'est une Mishnah qu'on avait vue il n'y a pas longtemps. Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Nafal habayit ala ve'al aviv. S'il y a quelqu'un que Hachem Mishmor, lui et son père, ils étaient dans une maison, la maison elle est tombée sur le fils et sur le père. Ou alors ala ve'al morishav, sur le fils, sur quelqu'un et sur les gens qui lui font, pas le fils, quelqu'un, et que les gens qui lui font hériter. Et donc il y a un doute maintenant qui est décédé le premier. Est-ce que c'est le père qui est décédé? Ou c'est le fils qui est décédé le premier. Et on parle que le fils, il avait des dettes. Le fils, il devait payer, soit il devait payer par exemple une ktouva à sa femme, qu'il était marié et qu'elle est devenue veuve, il doit lui payer une ktouva, ou alors qu'il avait divorcé sa femme peu avant, et donc il devait lui payer une ktouva, ou alors il devait des dettes à des gens qui lui avaient prêté de l'argent. Et voilà qu'il y a une discussion entre les héritiers du père et les créanciers, les prêteurs. Les héritiers du père, ils disent, c'est d'abord le père qui est décédé en premier, et après le excusez-moi, c'est d'abord le fils qui est décédé, mal traduit, c'est d'abord le fils qui est décédé en premier, et après le père qui est décédé en premier, et qui est décédé. Donc quand le fils il est décédé, avant le père, il n'a rien hérité, et après c'est le père qui hérite, qui est décédé. Donc nous, on hérite le père entièrement, sans que vous ayez le droit. On parle que le fils n'avait pas de bien. Et il doit de l'argent. Donc si on dit que le fils, il a hérité du père, si le fils, d'abord le père, il est décédé, après le fils, il a eu le temps d'hériter du père, eh ben le créancier ou la veuve pourront prendre l'argent de l'héritage du père. L'argent, ils pourront prendre, mais par contre, pour se faire rembourser. Mais si on dit que le fils, il est décédé en premier, comme c'est ce que les héritiers du père prétendent, alors le fils n'a rien eu, n'a pas eu de... Si le fils il veut hériter en premier, alors le fils n'a pas eu d'héritage, n'a rien reçu, et donc les héritiers du père ils disent non, nous on prend notre argent sans rien donner sans vous faire rembourser à vous. Donc vis al-kadatar, j'ai sauté deux trois lignes. Vargar metaben. Yor, je reprends. Yor she ha'av omrim. Alors, je suis maintenant, je viens de dire un mot à la quatrième ligne. Yor she ha'av omrim. Les héritiers du père disent ha'ben met rishon v'achar met ha'av. D'abord, c'est le fils qui est décédé et après, c'est le père qui est décédé. Donc, c'est le fils qui est décédé en premier et il n'a rien hérité. Et après, c'est le père qui est décédé. Et voilà, donc nous, on hérite le père entièrement. Ou ba'al chov omer. Et c'est le prêteur, celui qui avait prêté de l'argent au fils. Et qu'il n'y a pas de quoi se faire rembourser, il dit non, peut-être que Av Met Rishon, c'est le père qui est décédé d'abord, Vahakar Met Aben, et après c'est le fils qui est décédé. Donc il y a une discussion entre les deux pour savoir c'est qui, donc comment ça va marcher. Alors maintenant, quels sont ces héritiers du père? Quand on dit les héritiers du père, la Gemara dit, bah, c'est qui les héritiers du père? C'est le fils du fils. Le petit-fils, on l'appelle un héritier du père. Maïlav Yorshe Ha'av, banné. N'est-ce pas, quand on parle des héritiers du père, on parle des fils du fils qui est décédé aussi. Et Morishav, Aché. Et quand on parle donc de celui qui lui font hériter, quand on parle, c'était les frères du défunt. Vei salkadatar lomatse amar mikoar avoua de abakatina de riktiv tahat avoderayo banechabebrach active. Or, si tu penses que le petit-fils ne peut pas prétendre hériter directement du grand-père, pourquoi? Parce que quand il y a écrit dans le verset, à la place de tes parents viendront tes enfants, c'est juste une bénédiction qu'il y aura une continuité de beaucoup de descendance. Mais ça ne veut pas dire que le petit-fils, il hérite directement du grand-père. Ah oui, si c'est ainsi, qui met ha ben va rakar met ha av, mai have. Quel est l'argument des héritiers du père, c'est-à-dire du petit-fils? Quand le fils, il est décédé avant le père. Quand le fils, il est décédé. Et après, il y a le père qui est décédé. Comme les héritiers du. Comme le petit-fils prétend. Ben, ça change rien. Si on dit que le petit-fils, il ne peut pas hériter directement du grand-père. Donc quand il y a le fils qui est, quand il y a le fils qui est décédé, le petit-fils, lui, il ne peut pas hériter directement du grand-père. Il hérite d'abord de son père. C'est-à-dire le père, d'abord, il hérite du grand-père. Et après, le petit-fils hérite de son propre père. Alors si c'est ainsi, même si on va dire que le fils, il est décédé, et seulement après le grand-père qui est décédé, bah eux, le petit-fils, il n'a de droit que par le grand-père, que par son père. Et son père, il doit de l'argent à des prêteurs. Donc de toute façon, ce sont les prêteurs qui prendront l'argent. Mayave, ni velehu, baal chov yerushat avuhon, kashakin, ni malehu baal chov yerushat avuhon, kashakin, non. Le créancier, il peut dire, moi je prends l'argent je prends l'héritage que votre père il a reçu. Si de toute façon toujours le petit-fils il peut pas hériter directement du grand-père, mais il hérite, ça doit passer par génération à génération. Donc ça passe par le père et après le père au petit-fils, du grand-père vers le père, et le père vers son fils à lui, vers le petit-fils. Si c'est ainsi, bah le créancier, c'est sûr qu'il a un droit dans tous les cas, que le père il soit décédé en premier ou pas. Il a un droit de recevoir, même dans le cas où il est décédé en premier, il a le droit de recevoir l'héritage. Et ça ne va pas aller au petit-fils. Délimalo, non, on ne parle pas de ça. Effectivement, dans le cas où c'est le petit-fils qui est présent, peut-être que le petit-fils, il pourra prendre dans tous les cas l'argent du grand-père. Mais on n'a pas de preuve, parce qu'on peut dire que dans cette Mishnah, on parle qu'il n'y a pas de fils, qu'il n'y a pas de petit-fils, quoi. Il y a un fils et un père. Le fils qui est décédé, il n'avait pas d'enfant. Et maintenant, hein, c'était qui ses héritiers à lui? C'est qui les héritiers du père? Ce sont les frères. Dilagmara. Lo, non, Yorshe Ha'av, Echav. Quand on parle des héritiers du père, ce sont ses frères. Morishav, donc les frères du défunt, du fils, quoi. Et on parle que le fils n'avait pas de fils lui-même, n'avait pas d'enfant. Et Morishav, quand on parle de ce qu'ils l'ont fait héritier, Achi Davua, les frères de son père. Point. Donc on n'a pas de preuve d'ici que le petit-fils, il hérite directement son grand-père. Donc comme on n'a pas de preuve, c'est pour ça qu'on a dit que la loi, c'était une loi qui était difficile. La loi qu'on avait dit que si un père, quelqu'un, il a vendu les biens de son père, il a vendu les biens de son père, du vivant du père, et après il est décédé, et après seulement le père est décédé, alors le petit-fils, il peut dire aux acheteurs, les terrains que mon père vous a vendus, il ne les a jamais hérités, puisque moi j'hérite directement de mon grand-père. Ça, on n'a pas de preuve. C'est pour ça qu'on a dit que c'était une loi difficile. On a posé une question à Rav Shechet. Ben, maush yerash et imo bakever leanchil. Les Ahin min ha'av. Qu'en est-il? Est-ce qu'un fils, il peut hériter sa maman qui est décédée pour faire hériter au frère? Les Ahin min ha'av. C'est-à-dire, si un fils, il est décédé du vivant de sa maman, quelqu'un qui est décédé du vivant de sa maman, un fils, il hérite sa mère. Si la mère, elle n'est pas mariée, sinon c'est le mari. Mais sinon, c'est le fils qui hérite sa maman. Si le fils, il est décédé, et il avait des demi-frères du côté du père, donc il avait deux demi-frères qui n'ont pas la même mère, mais qui ont le même père. Et voilà que, après quelque temps que le fils est décédé, la maman, elle est décédée, et elle a laissé un héritage. Est-ce qu'on va dire que le fils, dans sa tombe, après son décès, il hérite sa mère pour faire passer l'héritage à ses demi-frères du côté du père, ou non? Qu'en est-il? Ben, on reprend donc un fils. Maouch ira chez Timo Bakever. Est-ce qu'il peut hériter sa maman lorsqu'il est déjà enterré? Donc après avoir, quand on parle qu'il est décédé avant sa maman. Pour faire passer l'héritage au frère, à ses demi-frères du côté du père, quoi. Des demi-frères qu'il a un même père. Amarle ou Rafshichet, sur ce Rafshichet leur a dit, toi, on a enseigné ça. Ha'av shenishba vamet bno bamdina. Si quelqu'un, le père, si le père il a été pris en captivité, et on a entendu que le père il est décédé en captivité. On ne sait pas quand exactement, mais on a entendu qu'il est décédé en captivité, loin d'ici. Ou met bno bamdina, et le fils il se trouvait ici. Et il est décédé dans le pays, quoi, on sait. Ou l'inverse, où Ben Shenishba, le fils, il a été pris en captivité, on a entendu qu'il est décédé, va mettre à vivre Babnina, et le père, il est décédé sur place, sans être pris en captivité. En tout cas, on ne sait pas qui est décédé. Est-ce que c'est le fils qui est décédé en premier ou le père en premier? Yorshe Ha'av, Yorshe Ha'ben, Yachaloku. Les héritiers du père et les héritiers du fils, ils vont se partager. Maintenant, on demande à Gemara, Eridami, de quoi s'agit-il? C'est quoi cool, ça, les héritiers du père et les héritiers du fils? A priori, il y a les mêmes, il n'y a pas plusieurs héritiers. Il y a les héritiers du père et du fils. Il ne peut pas y avoir de questions dans ce cas-là. Eri l'ami, de quoi s'agit-il? Il y marque des katanis. Si c'est comme ça a été enseigné, qu'il y avait un père et un fils, on ne sait pas qui est décédé en premier. Il y a des héritiers du père, il y a des héritiers du fils. Ils ne savent pas qui peut prendre la part. Donc ils font moitié-moitié, si on parle de ça. Qui sont ces héritiers du père? Qui sont ces héritiers du fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande la Gemara, qui sont ses héritiers? Pourquoi? Soit on dit que le fils, il avait des enfants, soit on dit qu'il n'avait pas d'enfants. Si on dit qu'il n'avait pas d'enfants, donc quelqu'un qui n'avait pas d'enfants, qui l'hérite? C'est son père. Si ce n'est pas son père, alors ce sont ses frères, etc. Donc, ça, il y a le père et le frère et le fils qui sont décédés, le fils sans enfants, ils ont les mêmes héritiers. Parce que si le fils n'avait pas de fils, n'avait pas d'enfants, alors c'est qui va l'hériter? Ça sera son père, ça. Et après, ça sera les héritiers du père. Donc, ils ont les mêmes héritiers. Et si on va dire que le fils, il avait un enfant, donc c'est l'enfant qui hérite. C'est sûr, c'est toujours l'enfant qui hérite. Que ce soit le père qui soit décédé avant le fils ou après le fils, toujours le fils, il va hériter la part que le père, il devait avoir. Il va l'hériter, lui, pour son fils. Le fils, il va recevoir du grand-père. Quand son père il est décédé du vivant du grand-père, même si on va dire que d'abord il y a le fils qui est décédé après le père. Le petit-fils, lui, il peut recevoir la part que son père il aurait dû recevoir dans l'héritage. Donc il n'y a pas de question. Donc on ne parle pas de ça. Et là, Varika Amar, seulement n'est-ce pas, on parle d'un autre cas. Voilà ce qu'on a voulu dire. Afshenishba, si le père il a été pris en captivité, il est décédé, on ne sait pas quand exactement. Va mettre Ben Bito Bamilina, et à part ça, bon, il avait une fille, le père il avait une fille qui était décédée. Et le fils de sa fille, son petit-fils, le fils de sa fille, il est décédé aussi dans le pays ici sur place. On ne sait pas donc si le petit-fils est décédé avant le grand-père ou pas. Ou autre cas, ou Ben Bito Shenishba ou Met Avi Imo Bamedina, si le fils, le petit-fils, lui, il est décédé, il a été pris en captivité et il est mort là-bas, on ne sait pas quand. Et le grand-père, le père de la mère de cet enfant-là, il est décédé dans le pays. En tout cas, on ne sait pas si c'est le grand-père qui est décédé avant le petit-fils ou le petit-fils avant le grand-père. On parle donc de cas que la mère, elle est déjà décédée. Et le petit-fils, il a des demi-frères du côté, pas du côté de sa mère, mais du côté du père. C'est-à-dire qu'il avait le père, il avait d'autres, il s'était marié une autre fois, il avait eu des enfants. Donc on ne sait pas si c'est le petit-fils ou le grand-père qui est décédé en premier. Alors dans ce cas-là, les héritiers du père et les héritiers du fils, c'est-à-dire les héritiers du grand-père et du petit-fils, c'est ça, ils se font moitié-moitié. Ils partageront. Or, veimita, si on dit que le petit-fils, un fils, quand il est décédé, après son décès, il fait hériter aux frères du défunt, c'est qui les héritiers de ce fils-là? Ça va être les frères du défunt. Si on va dire qu'il fait hériter aux frères du défunt, ce qu'il reçoit de sa maman. Si le fils, quand il décède, il fait hériter à ses demi-frères ce qu'il a reçu comme héritage de sa maman. Il fait hériter aux demi-frères du côté du père. Si on va dire une telle chose, que même après son décès, il peut faire hériter quelque chose. Donc même si on veut dire que le fils, il est décédé le premier, avant le grand-père, il est décédé. Après, il y a le grand-père qui est décédé. Donc le grand-père, il va faire hériter à son petit-fils, quoi, à sa fille qui était décédée. Elle fait hériter à son fils. Et son fils, il va faire hériter à ses héritiers. Donc que le grand-père soit décédé en premier ou que ce soit le petit-fils en premier, ça change rien. Dans tous les cas, les héritiers du petit-fils, ils recevront leur part. Donc pourquoi on dit moitié-moitié? Mais imita, si on dit que le petit-fils, que le fils, quand il est décédé, eh ben il hérite quand même sa maman pour faire hériter aux autres. Nehinami de ben met Beresha, même si on veut dire que le petit-fils, donc c'est lui qui est décédé en premier, l'hérité à vous Ademi, il a qu'à hériter sa maman. Il a qu'à hériter, excusez-moi, le père de sa mère, Bekivré, alors même s'il est décédé en étant mort, qu'il hérite le père de sa maman. Et il a qu'à faire hériter à ses frères maintenant, une fois que le petit-fils il aura hérité, il fera hériter à ses demi-frères du côté du père. Et si on voit qu'il y a une question et qu'on dit moitié-moitié, et la lave chemin, seulement on peut amener une preuve d'ici, que le fils ne peut pas faire hériter, ne peut pas hériter sa maman une fois que le fils il est mort, il ne peut pas hériter sa maman pour faire hériter à ses propres demi-frères, à lui quoi, du fils, à ses demi-frères du côté du père. Amar le Ravaha bar Minyumi la Abaye, Ravaha bar Minyumi adia Abaye. Af anan namitanina. Nous aussi, on a un enseignement qui est dit comme ça. Naf ala bayit ala ve'alimo. Si la maison elle est tombée sur le fils et sur la maman, on ne sait pas si c'est le fils ou la mère qui est décédé en premier. Elou va'elou modim shi achalokun. On avait dit que ce soit Bet Shamay ou Bet Hillel, tout le monde est d'accord que les héritiers du fils et les héritiers de la mère vont faire moitié-moitié. Donc, on est en train de parler de qui? Mais on met en train, les héritiers du fils, c'est ses demi-frères du côté du père. Ve'imita. Or, si tu penses que le fils, lorsque il est décédé, il hérite aussi sa maman. Et pour faire passer l'héritage à ses frères du côté du père. Nehi nami de ben met berisha. Dans ce cas-là, même si c'est le fils qui est décédé en premier. L'irteleime, dans tous les cas, qu'il soit décédé en premier ou pas, il hérite sa maman. Maintenant, on sait que les deux ils sont décédés, donc il a qu'à hériter la maman. Bekivré, une fois que lui il est mort, même si on va dire qu'il est mort en premier et qu'il hérite sa maman après son décès. Vélir tout, inhu leahi, mais avoua, il a qu'à faire hériter cet héritage-là à ses frères du côté du père. Et la lave shemaïna, du fait qu'on n'a pas ça, on a une preuve d'ici que en a ben yoresh et imo bakever, que le fils n'hérite pas sa maman lorsque le fils est décédé, il hérite plus sa maman pour faire hériter les anchil leahiminav, pour faire passer l'héritage aux frères du père, à ses demi-frères du côté du père, quoi. Shemamina, effectivement, on peut déduire ça. Deaimara veta mamai, quelle est la raison? Amara baye diabaye, neemra siba beben ve neemra siba bebaal. On a trouvé le terme de siba, nlotisov. Faut pas faire détourner l'héritage à propos du fils qui hérite de sa maman. On a trouvé ce terme-là aussi à propos du fils du mari, de l'héritage du mari. Donc, masiba pour nous dire qu'il a les mêmes lois. Masiba baal. De même que quand on parle de l'héritage du mari, eh ben le mari n'hérite pas sa femme alors que qu'elle est décédée, qu'il est décédé. Afsiba ha'amoura aussi lors de l'héritage du fils de la maman, le fils n'hérite pas une fois qu'il est décédé, il n'hérite pas sa maman alors qu'il est décédé. Le pour faire passer l'héritage aux frères, à ses frères, demi-frères du côté du père. Point. Dit la Gemara, Haouda marlé le havre. Il y a quelqu'un qui a dit à son ami, dit la Gemara, Nirse de Barsissine, mais avnina lecha. Je te vends les biens de Barsissine. Alors, comme le Rashba m'explique plus haut, on avait vu d'Aflamed, que on est en train de parler, c'était clair dans leur esprit qu'ils voulaient dire, je te vends les biens que j'ai achetés de Barsissine, le nom d'une personne. Havaï Khadar, ad ave mikriya de Barsissine. Il y avait parmi. Donc quelqu'un il a dit, je te vends tous mes terrains que j'ai achetés de Barsissine. Il lui a pas dit que je t'ai acheté tous mes terrains de Barsissine. Ça veut dire que tous les terrains que j'ai achetés de Barsissine. Et parmi tous les. Donc le vendeur, il avait 10 terrains. Il y en avait 8 qui étaient appelés les terrains de Barsissine. Maintenant, le vendeur, il dit sur 7, je suis d'accord, je les ai achetés de Barsissine. Ce huitième terrain, il est appelé comme ça, mais je ne l'ai jamais acheté de Barsissine. Havae, Khadar, ah, il y avait un terrain, il avait même créé de Barsissine, il était appelé un terrain de Barsissine, mais pourtant, à Marley, le vendeur, il a dit à l'acheteur, Halav de Barsissine, ça ce n'est pas un terrain que j'ai acheté de Barsissine, mais Krouyehu de Mikriya de Barsissine, juste il est appelé un terrain de Barsissine, mais ce n'est pas vrai. Atal et Kamé de Rav Nachman, alors, ils sont allés voir Rav Nachman, Ukma Beyada de Lokeach, Rav Nachman, il a dit, le terrain, il reste chez l'acheteur, il va chez l'acheteur, l'acheteur, il a le droit de prendre ce terrain, et c'est le vendeur qui doit amener une preuve s'il veut ne pas donner ce terrain. Amar le Rava le Rav Nachman, sur ce Rava a dit à Rav Nachman, Dina Achi, quoi, c'est la loi ainsi. Pourtant, Hamotzi Mechaverot, Alav HaRaya, celui qui veut faire sortir de son prochain, c'est lui qui doit amener une preuve. Dit Rava, Normalement, c'est qui est maintenant le terrain, il est chez le vendeur. Si l'acheteur, il va amener une, il veut dire que ce terrain aussi il faisait partie de la vente, il doit amener une preuve que ce terrain, c'est un terrain qui a été acheté de Bar Sissine. Donc d'après Rava, qui doit amener une preuve, c'est l'acheteur. D'après Rav Nachman, c'est le vendeur qui amène une preuve. D'Aïmara, on va objecter, on va poser une question, qu'on a vu un cas où c'était l'inverse. Que selon Rav Nachman, c'était l'acheteur qui devait amener une preuve, et selon Rava, c'était le vendeur qui devait amener une preuve. L'inverse de ce qu'on vient de voir ici. Des Rami, des Rava, des Rava, des Rav Nachman, des Rav Nachman, dit l'Aïmara, on amène une objection, une question entre Rava et Rava, entre l'enseignement de Rav Nachman et l'enseignement de Rav Nachman. Pourquoi? Des Haou, des Amarle, les Havre. Il y avait une histoire de quelqu'un qui a dit à son ami, Maïbaït, Behaï, Beta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? Alors, celui qui était dans la maison, il a dit, Amarle, il a dit à celui qui réclame, Minar Zavinta, je l'ai acheté cette maison de toi. Ça fait 4 ans, j'ai acheté, 3 ans, j'ai acheté la maison de toi. Vachalit, Shne Chazaka. Et j'étais pendant les années de Chazaka. C'est quoi les années de Chazaka, comme on avait vu? Que lorsque quelqu'un, il est resté dans un terrain pendant. Quelqu'un qui achète un terrain, on sait que le terrain il est à quelqu'un d'autre, il achète un terrain. S'il a un acte de vente, comme quoi il a acheté le terrain, c'est très bien. S'il a un acte d'achat, une preuve qu'il a acheté le terrain, c'est bien. Maintenant, s'il n'a pas de preuve, cet acte de vente, il doit le garder jusqu'à 3 ans. Si on sait qu'il est resté pendant 3 ans sur le terrain et qu'il a utilisé le terrain de manière normale pendant 3 ans, alors après, il n'a plus besoin d'amener un acte de vente. Donc lui, il dit, voilà, moi j'étais pendant 3 ans sur le terrain. Ah, et j'ai des témoins qui savent que j'étais pendant 3 ans sur cette maison. Pas le terrain, cette maison, j'étais pendant 3 ans, donc c'est pour ça que voilà, j'ai acheté la maison. À Marley, alors le vendeur, ou plutôt le réclamateur, on ne sait pas si cette maison elle a été vendue ou pas, mais l'ancien propriétaire, il dit à Marley, il dit, Ana Bechroune Gavaye. Moi j'étais dans la maison intérieure, la maison dans laquelle toi tu étais, il y avait une autre maison intérieure, une autre pièce, et moi j'habitais par là-bas, et dit le vendeur, le réclamateur, moi, je passais par chez toi, et donc le fait que je passais par chez toi, ça ne t'a pas empêché, ça ne, ça, ça, donc t'as pas vécu pendant 3 ans comme un vrai propriétaire. Et puisque tu n'étais pas pendant 3 ans comme un vrai propriétaire, tu dois encore garder l'acte de vente si vraiment tu avais acheté de moi. Donc je réclame et je dis que toi, tu m'as pas, je t'ai jamais vendu. Atal et Kamid Rav Nachman, ils sont allés voir Rav Nachman à Marley. Rav Nachman, il a dit, Zil, bror achilatecha. Il a dit, à l'acheteur, à celui qui était dans la maison, va prouver que tu es resté vraiment pendant 3 ans de manière certaine et qu'il n'y avait personne qui passait dans ta maison pendant les 3 ans que le réclamateur, l'ancien propriétaire, ne faisait pas des allers-retours sans cesse par ta maison durant les 3 années. Amar les Rava, les Rav Nachman, alors Rava, il a demandé à Rav Nachman. Donc d'après Rav Nachman, qu'on vient de voir, qui doit amener une preuve? L'acheteur. Juste avant, il avait dit que c'est le vendeur qui doit amener une preuve. Derimara. Amar le Rava le Rav Nachman, Rava il a dit à Rav Nachman, Dina Achi, quoi, c'est la loi ainsi. Celui qui veut sortir de son ami, il doit amener une preuve. Donc là, c'est le vendeur qui veut faire sortir la maison de l'acheteur, c'est au vendeur d'amener une preuve. Donc on voit là que Rava il dit que c'est le vendeur d'amener une preuve, alors qu'avant, Rava a dit que c'est l'acheteur qui doit amener une preuve. Derima, comment comprendre? Kasha de Rava, de Rava, ve de Rav Nachman, a de Rav Nachman, il y a une question entre Rava et Rava, comme on a vu qu'avant il a dit que c'était l'acheteur qui doit amener une preuve, et maintenant il dit que c'est le vendeur qui doit amener une preuve. Et une question sur Rav Nachman et Rav Nachman, que Rav Nachman il avait dit avant que c'était le vendeur qui devait amener une preuve, et maintenant il dit que c'est l'acheteur qui doit amener une preuve. De Gemara, de Rava, de Rava, Lokashia, la question entre Rava et Rava, ce n'est pas une question, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Acham ocher kae ben irsé. Hatam, loker kae ben irsé. Ici, dans notre histoire à propos des biens de Bar Sissine, que quelqu'un il a vendu tous les terrains qu'il avait achetés de Bar Sissine. Et Rava nous a dit que c'est l'acheteur qui doit amener une preuve sur un terrain qui a une question si vraiment ça fait un des terrains de Bar Sissine, c'est l'acheteur qui doit amener une preuve. Eh ben, le vendeur, lui, il est sur son terrain. Il y a une question, est-ce que le vendeur, il doit donner le terrain ou pas? C'est celui qui veut faire sortir de l'autre qui doit amener une preuve. Donc c'est l'acheteur, dans notre cas, qui doit amener une preuve. Par contre, dans le cas là-bas de la maison, que le réclamateur, il prétendait qu'il passait dans la maison plusieurs fois, là-bas, qui est resté pendant 3 ans? Ce qui est sûr, c'est que l'acheteur, celui qui est prétendu être l'acheteur, et était dans la maison pendant 3 ans. Donc, c'est lui maintenant qui attrape la maison, c'est lui qui vit dans la maison. Le vendeur, il veut lui dire, tu sais quoi, peut-être tu vas sortir de cette maison. C'est au vendeur d'amener une preuve. Hatam, là-bas, l'okéar kae ben irsé, c'est l'acheteur qui est maintenant dans la maison pendant les 3 ans. Donc, on veut voir peut-être que c'était pas qu'il va sortir de la maison ou pas. C'est au vendeur d'amener une preuve. Maintenant, des Rav Nachman à des Rav Nachman, l'okashia, aussi la question entre Rav Nachman et Rav Nachman. Donc la contradiction qu'on a eue avant, ce n'est pas une question. Comme on dit que dans le cas de Barzizine, il a dit que c'est le vendeur qui doit amener une preuve, et dans le cas de dans le cas donc des terrains, et c'était le vendeur, et dans le cas de la maison, il a dit à l'acheteur d'amener une preuve. Ce n'est pas une question. Pourquoi? Ha, qui vend à marler des bébarsisines, ou me crier des bébarsisines, allez dider Ramia, les galouillés de lave des bébarsisines hi. Ici, dans le cas des terrains qui ont été vendus et qui lui a dit, je te vends tous les terrains de Barzizine. Il lui a dit comme ça. C'est un terrain qui s'appelle de Barzizine. Il est vendu. Maintenant, il veut prétendre, non. Moi, ce que je t'ai dit, et c'est clair que je te vendais les terrains qui ont été achetés de Barzizine, mais ça, c'est pas un terrain de Barzizine. C'est à lui d'amener une preuve. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est un terrain de Barzizine. Il veut dire l'inverse, qu'il amène une preuve, le vendeur. Aha, il y en a qui disent, le Barzizine, il faut dire Atam. Là, on continue. Atam, loyer la denakitchta. Par contre, dans l'autre cas, dans le cas de la maison que l'acheteur il dit j'étais pendant 3 ans dans la maison et le vendeur il dit oui moi je faisais des passages par là. Dans ce cas-là, Rav Nachman il a dit à l'acheteur d'amener une preuve qu'il était vraiment 3 ans et qu'il n'y avait personne qui passait dans sa maison pendant ces 3 ans, qu'il n'y avait pas le vendeur, le réclamateur qui faisait des allers-retours sans cesse. Là-bas pourquoi? Il dit que c'est l'acheteur qui doit amener une preuve. Pourquoi? Hatam là-bas, lo yé la denakit, comme quelqu'un qui amène un acte écrit, quelqu'un qui amène un acte de vente. Il faut prouver qu'il n'est pas falsifié. Il faut prouver que c'est juste. Donc là aussi, quelqu'un il dit, moi j'étais pendant 3 ans, c'est à la place de l'acte de vente. Mais prouve que c'était 3 années qui étaient bien justes, qu'il n'y avait personne qui passait par là. Mais, donc même s'il avait amené un acte de vente, Milo Amrinan le Kayam Shtarecha avec Kumbenirse, est-ce qu'on va pas lui dire, et vérifie, authentifie ton acte de vente et tu pourras recevoir ton terrain. Donc là aussi, on lui dit, vérifie les 3 ans que tu amènes, amène-les, prouve que c'est bien 3 ans. Et qui sont bien été, et pendant 3 ans tu étais sur le terrain de manière juste, c'est-à-dire entièrement, entière et parfaite, et alors tu recevras la maison, là tu la prendras pour toi. Et comme ça, on a fini le 9e chapitre du traité Baba Batra, Adran al-Arbe Eder Mishemet, qu'on ait le mérite de réviser, de bien connaître toute la Torah, des tzadikim, Talmid Chachamim, d'enseigner la Torah, d'accomplir, de réaliser chaque détail, respecter tous les détails de la Torah, Bezrat Hashem, nous, tous nos descendants, tous les enfants d'Israël, Bezrat Hashem, dans la joie et dans la simcha. On verra Bezrat Hashem, on commencera le 10e chapitre demain, Bezrat Hashem, dans le daf de demain. Passez une bonne journée, Be'atzlacha, et à bientôt.